Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum de Sud Kalungu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelles réponses face à la récurrence des inondations dans la ville de Niamey? Tel est le thème du Forum de ce soir. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours au Niger ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays. Selon le Comité national de gestion et de prévention des inondations, ces fortes pluies enregistrées ont causé à la date du 20 août 217 morts et 200 blessés ainsi que plusieurs dégâts. À Niamey, la capitale, d'importants dégâts matériels ont également été enregistrés, allant de l'effondrement des maisons à l'inondation des champs, des cultures, des périmètres agricoles et des jardins. Alors, comment se présente la situation actuelle de ces inondations sur le plan national? Quelle est la situation spécifiquement de la ville de Niamey? Quelles sont les conséquences engendrées? Quelles sont les mesures prises à court, moyen et à long terme pour y faire face? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons invité M. Issifi Diabaté, le conseiller technique principal de l'administrateur délégué de la ville de Niamey en matière d'aménagement urbain. Bonsoir M. Issifi. Nous avons également M. Tini Younoussa, il est architecte urbaniste. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Nous avons invité la Direction générale de la protection civile qui n'a pas envoyé de représentant. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci donc à vous de nous recevoir chez vous. À Niamey, des quartiers ont été touchés par les inondations suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Il n'y a pas qu'à Niamey, dans tout le pays aussi, certaines localités ont été touchées par ces fortes précipitations. Mais précisément, dans la ville de Niamey, à titre illustratif, la digue de protection du côté des villages de Goudel et Losogungu est endommagée la semaine dernière suite à la crue du fleuve Niger. Des rizières et des habitations sont déjà inondées selon Yaesen Alzuma. Il est le chef du village de Losogungu. Il explique la situation au micro de Moutari Mahamadou.
Voilà des années que nous n'avons pas assisté à cette eau massive. Je me rappelle en 1984, nous avons eu cette situation similaire. Vous savez, les raisons de ce problème actuel que nous vivons, c'est parce qu'il y a un endroit dans la ville de Losogungu que les gens ont creusé jusqu'en ville, alors que cet endroit dévie les eaux jusqu'à l'autre rive. Actuellement, l'école de Losogungu 3 est engloutie dans les eaux. L'école Losogungu 4 est dans la même situation. Nous n'avons rien à faire maintenant pour éviter les dégâts. Trop tard, 80 hectares sont dans les eaux appartenant aux populations de Losogungu et de Goudel. La digue que vous voyez là-bas, si cette année elle a échappé, l'année prochaine elle va céder parce que l'année dernière elle a été colmatée mais le travail n'a pas réussi. Nous avions été informés du danger qui arrive depuis le Mali car nous avons nos gens à Gao. Donc chacun doit s'éloigner et éviter le fleuve.
Alors, vous venez d'écouter le chef du village de Losogungu suite à la digue de protection du côté des villages de Goudel et Losogungu qui avait cédé la semaine dernière. Donc, à ces fortes précipitations, comme je le disais plus haut, ont fait des dégâts. Je commence avec vous, Monsieur Issifi Diabaté. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique principal de l'administrateur délégué de la ville de Niamey en matière d'aménagement urbain. Cette situation des inondations, comment se présente-t-elle à la date d'aujourd'hui, ici à Niamey?
Donc, merci bien, madame Nafisa. Mm-hmm. Merci que vous prenez pour le fait de trouver notre espace commun, la ville de Niamey.
Mm-hmm. Tout le plaisir est pour nous.
Merci beaucoup. Permettez-moi de faire d'abord une présentation de la ville de Niamey pour comprendre ce phénomène.
Effectivement.
Pour l'inondation.
D'accord.
D'abord, Niamey est établi sur les bords du fleuve Niger, qui est une vallée. N'est-ce pas? Sur les terrasses de cette vallée se sont construites la rive gauche, les quartiers principaux de la ville de Niamey, notamment le quartier Plateau, la zone résidentielle, et la zone indigène Niameba, dont elle est séparée par le coryphe de Guntiena.
Guntiena, oui.
Sur la rive droite, nous avons toute une plaine alluviale, qui sont des anciens bras morts du fleuve, surplombés par un plateau, les collines de Sienne et autres. Pour la rive droite, l'altitude moyenne varie entre 180 et 250 mètres d'altitude. C'est important en matière d'inondation à savoir. Pour la rive gauche, on a une altitude qui varie de 185 mètres à 220 mètres d'altitude quand on va de Gamkele à Yentala. Mm. Donc, le phénomène d'inondation est un phénomène complexe, mais il a des causes structurelles, je veux dire naturelles, et puis anthropiques.
Justement, quelles sont donc ces principales?
D'abord, vous voyez la nature, en termes du relief. Harobanda, c'est une plaine alluviale. Alors que là-bas, la côte est à moins de 182 mètres d'altitude, donc déclarée non constructible. Malheureusement, c'est là-bas que tout le monde s'est établi pour faire des habitations. Sur la rive gauche, là où nous sommes là, en plus du Kori Guntiena, nous avons au nord, n'est-ce pas, le Kori de Gudalgourou et le Kori Wolam, qui sont des affluents. Ces affluents, quand ils débordent, ils inondent la ville de Niamey. Mais on ne peut pas parler d'inondation à Niamey sans parler de la dernière étude intitulée « Schéma directeur d'assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales à Niamey, horizon 2020-2035 ».
Quel est le lien?
Cette étude a eu l'honneur, qui a été financée par l'AFD et élaborée par le ministère de l'Hydraulique. Et c'est un schéma directeur. Un schéma directeur, en fait, c'est une réponse à ces catastrophes-là. Donc, du point de vue diagnostique, cette étude-là a déjà démontré que pour Niamey, il y a 36 points. 38 points naturellement inondables. Elles sont constituées des dépressions, des points bas, quoi, des talvecs. Elles sont constituées des parties où la nappe, elle affleure, comme à Sonissi ou à Koubia. Elles sont composées des zones où les aménagements ont été mal maîtrisés, comme ici à Congo-Gourou, et à Gabougoura, dont tu as parlé de monsieur. Ici, là-bas, le problème fondamental, c'est la voie là qui a été faite, qui n'a pas respecté le profil le long de la rive. Il y a aussi quelque part où les gens ont construit sur le passage des eaux. Voilà fondamentalement ce qui explique les inondations à Niamey. Mais à Niamey, il faut tenir compte de trois types d'inondations. Les inondations dans les quartiers qui sont liées à ces dépressions et à ces courries, mais aussi l'inondation par le fleuve Niger. Et pour le fleuve Niger, il y a deux types d'inondations. Celle qui est liée à la crue guinéenne, qu'on appelle une inondation lente. Et c'est le plus grave, plus torrentiel que nous vivons au mois d'août, là, c'est les inondations liées à la
fort
fleuve. Voilà. Donc, même l'intérieur de la ville, les quartiers, là, sont victimes de cette forme d'inondation-là, les pluies torrentielles. Pour le fleuve Niger, c'est pareil. D'abord, le fleuve Niger, au niveau de Niamey, quand vous regardez depuis une vingtaine d'années, fait face à un important phénomène d'ensablement qui réduit la capacité d'absorption du fleuve par le lit mineur. Et donc, quand le lit mineur déjà assemblé reçoit les eaux des terrasses de la ville de Niamey, elle reçoit les eaux des différents affluents, le Gourubi, la Sirba et autres là, ça fait un trop-plein. Et les aménagements qui ont été comme les digues là, souvent ne sont pas toujours bien entretenus pour contenir ces eaux-là.
C'est pourquoi elles cèdent souvent.
Elles cèdent souvent.
Et vous venez d'entendre plus haut le chef du village de Losungu, dont la digue avait cédé la semaine dernière, causant donc des dégâts. Selon vos constats, quels autres quartiers sont touchés par ces inondations de la ville de Niamey?
Bon, touché tout de suite là, mais il y a des risques d'inondation. On en a vraiment dans la zone de Lamordé, on en a dans la zone de Saga et de Krikisoy.
Qui sont à risque?
Qui sont à risque. Parce qu'à un moment, la côte est allée jusqu'à 173. Donc, elle est déjà dans la côte rouge, à l'est rouge. Mais Dieu, dans son infinie bonté, vous avez constaté que depuis une semaine, elle est en train de baisser cette côte-là. D'ores et déjà, vraiment, les comités de veille surveillent. Au niveau de la région, il y a un comité régional pour cela qui est en train de suivre l'évolution de cette côte-là.
D'accord.
Mais il y a des messages diffusés à l'ensemble des populations. Parce que la première mesure de protection, c'est de libérer les zones inondables.
D'accord. Nous allons venir à la question principalement, le temps de donner donc la parole à M. Tini Younoussa. Il est architecte urbaniste. Alors, merci d'être venu, M. Tini. La ville de Niamey a dressé la question liée à ces inondations. Vous, en tant qu'urbaniste, comment expliquer la récurrence des inondations dans nos villes?
Eh bien, merci bien de l'opportunité que vous ne cessez de nous offrir pour nous exprimer sur vos antennes. Le phénomène des inondations à Niamey, le conseiller Aladé l'a tellement si bien expliqué que je n'aurais même pas de mots à dire.
Pas qu'à Niamey uniquement, dans toutes nos villes, qu'est-ce qui expliquerait cette récurrence des inondations?
En tant qu'urbaniste, je ne pourrais que commencer d'abord par le côté d'urbanisation qui et un phénomène de peuplement et d'accroissement de nos villes. Oui, qui dit accroissement et augmentation de la population dit forcément occupation de l'espace, tant naturel réservé pour les cultures que les espaces aménagés. Donc, une fois que la ville s'agrandit sans qu'il y ait des études d'aménagement au préalable, on peut être exposé à beaucoup de phénomènes, à beaucoup de défis, dont l'inondation. Et si je le situe sur le plan de l'urbanisation, je peux dire que depuis en 1996, que le premier schéma directeur de la ville de Niamey est expiré, on n'a pas eu un autre schéma qui fixe les orientations du développement de la ville. Or, c'est à travers ces schémas qu'on peut répertorier les zones d'habitation, les zones d'agriculture, les zones et des courries pour le drain naturel des eaux pluviales et tout ceci. Mais malheureusement, le premier était dépassé, je dis, depuis 1996. Mmh. C'était conçu en 1984 et c'est expiré en 1996. Donc, depuis lors, il n'y a pas eu un schéma directeur. Présentement, il y a un qui est en cours d'études qui vient de démarrer, le ministère a lancé. Mais en attendant qu'on ait ça pour pouvoir finir et appliquer, le mal est déjà fait.
Oui,
parce que de 1996 à maintenant, il y a au moins plus de 20 ans.
Oui.
Voilà, donc tout ce temps-là, Niamey se développait et de façon, on peut dire hasardeuse, pour ne pas dire anarchique. Et depuis un certain temps, les autorités compétentes ont concédé l'aménagement de la ville à des concessionnaires privés, qui, eux, c'est l'aspect pécunier qui les intéresse. Ils s'en fichent de savoir si telle zone est inondable ou pas. Eux, c'est l'essentiel, et fournir et produire le maximum de parcelles qui les intéressent. Donc, ce qui fait qu'ils lotissent même des zones inondables.
Quel complément vous pouvez apporter sur les caractéristiques des zones inondables dans la ville de Niamey? Où est-ce qu'on les trouve ici?
Vous savez, dans la ville de Niamey, comme l'a dit M. le conseiller, il y a trois types, à mon sens, de zones inondables. En dehors du grand fleuve, la grande vallée, le fleuve du Niger que nous connaissons tous, il y a les grands koris, le Guntiena est là, le kori de Walam, le kori de Kongou, le kori de Bongoula et d'autres petits koris qui sont encore dans les nouveaux quartiers qui ne sont pas de grande taille, mais qui aussi sont des affluents importants.
Mm-hmm.
Pas à la taille des autres, mais importants. Qui sont tous inondables. Et il y a des zones, comme il l'a dit, qui, même en temps de saison sèche, la nappe n'est pas profonde. L'eau arrive à jaillir par le sous-sol.
Par exemple, à titre illustratif, quel quartier de la ville de Niamey?
Nous avons le quartier d'Arsalam qui est autour de Guntiena.
Mmh.
À tout moment, là-bas, c'est inondé dans les maisons.
Mmh.
Il y a le quartier Sonissi qui est à côté de 100 mètres, communément appelé 100 mètres là, et jusqu'à Verbedir.
Mmh.
À tout moment, les zones là, l'eau jaillit de par les nappes.
Mmh.
Et maintenant, le nouveau phénomène, même au niveau de Guntiena, les anciens quartiers, l'eau arrive à remonter vers le haut. Donc ça, c'est déjà des zones reconnues.
Donc, à vous comprendre, M. Tini, l'urbanisation donc, joue un rôle dans l'aggravation des risques liés aux inondations.
Vous savez, l'urbanisation est toujours accompagnée par un corollaire de défis, tant positif que négatif. Positif, si c'est bien géré. C'est-à-dire, si déjà on a établi des plans de planification, des outils de planification de la ville, et en plus de cela, suivre, aller gérer, une fois installé, une fois urbanisé, aller gérer et faire la gestion urbaine. Là, c'est bien géré. Ça profite même à l'accroissement, à l'épanouissement de la population et de l'économie. Ça, c'est quand c'est bien géré. Mais quand c'est mal géré, là, c'est bonjour les dégâts. Il n'y a pas que les inondations. Il y a la criminalité qui est là. Il y a les taudis qui et fleurissent. Il y a en tout cas tout un tas de problèmes, oui, et auxquels les gens seront confrontés quand l'urbanisation n'est pas bien gérée. Mmh. Et qu'est-ce que j'appelle bien gérée? Je dis bien, il faut d'abord en amont réfléchir, faire des études de planification.
D'accord. Merci bien. Alors, je reviens vers vous, monsieur Issifi, de la ville de Niamey. Selon donc monsieur Tini, le schéma même directeur de planification de la ville de Niamey est expiré depuis 96 des années, donc que ce schéma est expiré. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question?
D'accord. Merci bien, Nafisa, une fois encore. Permettez-moi de vous rappeler que aujourd'hui la ville de Niamey a une population d'environ 1 500 000 habitants. Mm. Établissent environ 500 km² de superficie. Les études de l'INES montrent qu'autour de 3,2% annuel, la population à Niamey va doubler tous les 15 ans. Ça pose vraiment des problèmes d'enjeux. Et comme il l'a dit, effectivement, la première arme de gestion urbaine, c'est la planification. Depuis 1996, effectivement, le premier schéma directeur de la ville de Niamey, il est épuisé. Je veux juste rappeler, c'est qu'un schéma, c'est quoi? C'est une photo du futur.
Effectivement, on allait demander...
Qui demande aux hommes... Bon, c'est une photo du futur qui donne les grandes orientations, comme il l'a dit, développement urbain. Les grands besoins en termes d'espace, d'équipement, d'infrastructure et de localisation des habitations et de lotissements. C'était, depuis 1996, effectivement, ce document est expiré. Mais je vais vous faire une surprise. C'est cet outil expiré-là qui a fait sortir les grands boulevards là. Les Malibéraux, les Tanimoula. C'est tout là qui est dépassé. Donc, il n'est pas totalement dépassé parce qu'à l'intérieur, il y a des opportunités pour le développement de la ville de Niamey.
Mais vous faites l'unanimité que la ville est en croissant développement. Donc, ce schéma est expiré. Aujourd'hui, il faut un autre.
Justement. En fait, madame, c'est un phénomène qui est propre à toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes, on se promène là. Ce n'est pas seulement Niamey. C'est qu'une commune qui croît de cette façon, les capacités des communes ne sont pas toujours au rendez-vous pour contenir ce flux-là. C'est normal. Et puis pour Niamey, il faut que nous comprenions que c'est d'abord une capitale régionale, mais d'abord c'est une capitale nationale. Donc les investissements doivent tenir compte de cette double casquette de la ville de Niamey. Et puis quand c'était expiré en 96, là, on a toujours eu recours à des plans sectoriels. Jusqu'en 2008, où à travers Urbaplan, c'est un cabinet franco-suisse, on a élaboré un autre outil.
Il est mort-né,
mais à l'intérieur, quand même, il y a eu des espaces, il y a des opportunités qu'il faut dépendre. Comme il l'a dit, c'est mort-né, mais comme j'ai dit aussi, un schéma, c'est une photo. Il faudrait que les acteurs se l'approprient.
Mais pourquoi vous dites qu'il est mort-né déjà?
Il est mort-né parce que tout ce qu'on avait prévu, avant même la fin de cet outil-là, les espaces sont déjà occupés. Il y a la ceinture verte, par exemple, il y a la zone de Goudel, là, tout c'est déjà construit avant même que l'outil ne finisse. Or, c'est cet outil-là qui va faire des prescriptions pour dire à la population et aux différents acteurs, voilà là où il faut aménager, là où il ne faut pas aménager. Pour dire qu'on n'est pas sur les bras croisés. Depuis 2022, la ville de Niamey, de concert avec le ministère en charge de l'urbanisme, nous avons engagé pour un nouveau schéma directeur qui est déjà en cours. Parce comme il l'a dit, il n'est pas encore fini.
Il est en cours d'études,
déjà,
oui.
Comme on connaît bien la ville, il y a des espaces sur lesquels on peut intervenir. L'inondation de les questions là, c'est un problème d'occupation des zones édificables.
Justement, j'allais venir à cette question. On sait que vraiment, toutes les saisons, au cours de toutes les saisons pluvieuses, il y a des inondations. Et il y a certains quartiers qui sont reconnus être des quartiers qui sont tout le temps touchés par ces inondations, mais malheureusement qui continuent d'être occupés. Quelle explication vous donnez à cela?
Je vous ramène en 2010, l'avant-dernière inondation de 2010, qui a surtout touché la rive droite.
Oui.
J'étais à l'époque responsable en charge des questions domaniales. Nous avons identifié toutes les zones et cartographié toutes les zones inondables. Et l'ensemble des occupants ont été relogés à Sino, moyennant la signature d'un acte de renonciation volontaire. Alors que la commune vous donne un terrain gratuitement, en contrepartie, vous renonciez au terrain qui a été inondé là. Mais comme la nature aurait dit vite, vous avez constaté que les gens sont encore revenus.
Ils sont encore revenus.
Sinon, les gens là ont signé une renonciation volontaire. Donc même à Dinanché, comme on le dit là, ils ne doivent pas retenir la voie, ils sont encore vendus. Et c'est les zones principalement inondables. C'est pourquoi en 2020 maintenant, quand il y a eu le deuxième cycle d'inondation en 2020, c'est que cette fois-ci, on a donné aux gens des terres. La ville a donné 936 parcelles gratuitement pour loger les sinistrés. Moyennant, n'est-ce pas, la renonciation à ces terrains-là. Mais ce qui aurait pu marcher plus facilement, c'était d'occuper ces terrains-là. Il y a la zone qui va de l'Émig, n'est-ce pas, à Karadjiganda, la zone de Bangabana, de Kirkisoy. On a fait la cartographie. Mm-hmm. Donc ces espaces-là doivent être réhabilités sous forme d'aménagement hydroagricole. Mm-hmm. Et ça marche bien, mm-hmm. vu la nature des sols. Mais vraiment, il y a toujours cette situation-là qui se pose.
D'accord. Monsieur Tini, aujourd'hui même, parlant de planification de la ville, notre ville de Niamey aujourd'hui, de quoi a-t-elle besoin ou bien aura-t-elle besoin pour vraiment limiter ou prévenir ces inondations qui sont récurrentes?
Très bien. Avant de répondre, permettez-moi juste d'éclairer un peu mon ami. Quand j'avais dit que le chemin directeur de la ville de Niamey était dépassé en 96, eh bien, je n'ai pas dit que les autorités en charge sont restées les bras croisés. Oui, parce que il y va de soi à ce qu'ils trouvent des solutions palliatives en attendant d'avoir une autre étude, bien sûr. Mais quand même, une fois qu'on dit que le schéma est expiré, c'est-à-dire le schéma a un horizon bien fixé et dans le temps et du point de vue spatial. Et les premiers aménagements qui ont été faits à l'intérieur de ce schéma, je fais allusion surtout aux aménagements de drainage des eaux pluviales, les grands collecteurs qui ont été faits les années 81, tiennent compte en tout cas du périmètre que couvre le schéma directeur. Ça a été bien fait et c'était pour, en ce moment-là, cet espace compris entre les limites du premier schéma. Maintenant que c'est dépassé, on est allé même peut-être deux fois en termes d'occupation d'espace par rapport aux premières circonscriptions du schéma.
Oui.
Donc ça veut dire que ces collecteurs qui ont été dimensionnés pour les premiers périmètres du schéma sont dépassés. Ce qui fait que les nouvelles occupations viennent, ils charrient du sable et venir embrouber ces caniveaux, ces collecteurs. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est dépassé.
Oui.
Si c'était resté dans le premier périmètre, ça allait marcher bien. Mais maintenant, on est allé peut-être même plus de deux fois au-delà. Donc toute cette zone-là maintenant, la nouvelle zone, n'a pas fait objet d'une étude, ni collecteur, ni caniveau, encore je ne sais même pas quoi, il n'y en avait pas.
Mm-hmm.
Alors que dans le premier schéma, on a tenu compte des drains naturels qui existaient à l'intérieur de ce périmètre.
D'accord, c'est un complément d'information alors, monsieur.
Qui existaient à l'intérieur de ce périmètre, à savoir le Guntiena. Si vous le constatez, tous les collecteurs de la ville de Niamey qui ont été faits sous ce schéma-là ont été dirigés vers le Guntiena ou bien d'autres directement au fleuve.
Mm-hmm.
Parce que dans ce premier périmètre, c'était les deux drains naturels qui existaient. Maintenant, on a même dépassé le courrier de Wallam qui a coupé la voie et à Soreille et au niveau de Niamey vers Niamey 2000. Il y a aussi le courrier de Kongou qui n'est pas celui de Wallam, un peu avant. Il y en a plein maintenant. Il n'y a pas eu de nouvelles études pour pouvoir analyser, voir de quel côté cette fois-ci il faut drainer les eaux et comment les traiter. Donc c'est le manque de nouveaux outils qui a amené tout ça.
Donc, quelles sont vos propositions aujourd'hui?
Voilà, bon, les propositions ne peuvent être que des études. On ne peut pas agir sur une ville sans un outil de planification, sans un plan d'intervention. C'est pas sur une ville seulement. En quoi que ce soit, il faut étudier. Même sur la santé de l'homme, il faut d'abord diagnostiquer. Il faut d'abord consulter et diagnostiquer avant de sortir qu'est-ce qu'il faut faire.
Alors, monsieur Issifi, aujourd'hui, plusieurs localités du Niger, la ville de Niamey, la capitale, connaissent vraiment ces inondations. Quelles sont les conséquences liées à ces inondations?
Bon, moi, je pense que les conséquences, là, c'est d'abord les stations des populations vulnérables, la vulnérabilité des populations qui sont soumises en termes de relocalisation, en termes d'éducation des enfants, en termes de santé et autres. Et je tiens à rappeler que si on n'a pas un schéma directeur, il y avait dit dans mon premier exposé que depuis 2021, le ministère de l'Hydraulique a doté la ville d'un schéma directeur. Et le schéma directeur, là, l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, a eu l'avantage d'avoir recensé 38 points 48 points à Niamey, qui constituent les causes des inondations dans les quartiers. Et en termes de solutions, cette étude a organisé ces 36 zones-là en 13 bassins. En 13 bassins de drainage de ces eaux à travers des infrastructures de caniveaux et des collecteurs. Donc ce n'est pas la solution qui n'est pas trouvée, peut-être que c'est la prise en charge de la solution qui n'est pas trouvée.
Effectivement.
C'est un problème de financement, c'est en termes de milliards, l'ensemble de ces ouvrages, et on a un horizon de 2020 à 2035. 2020 à 2035, on a fait un budget de plusieurs milliards avec un apport des partenaires, mais cet apport-là est concentré sur la base des apports locaux. C'est pour amener maintenant le débat au niveau national. On veut avoir des infrastructures, il faudrait aussi que nous mettions la main à la poche. Toutes les villes du monde, les présidents contribuent à son assainissement et à son développement urbain. Et cette même étude-là a eu l'honneur de proposer des solutions de financement de ce réseau-là. Mais on n'est pas encore là, parce que quand on va arriver aux solutions, on va en parler. Mm-hmm. Mais il faut retenir aussi une chose qui aggrave les inondations à Niamey, il faut le confirmer, c'est d'abord la nature géologique des sols. À Niamey, nous avons des parties où c'est des sols qui ont une certaine épaisseur. Et les études ont montré, quand un sol a moins de 2,5 cm d'épaisseur, s'il y a 35 mètres de pluie, c'est une inondation. Pire, on a des quartiers comme aéroport, Talagi, où le sol, c'est une cuirasse ferrugineuse. Là, ça ne s'infiltre pas dans le sol. Donc, même du point de vue naturel, il y a des quartiers qui sont prédisposés à l'inondation. Vous voyez, maintenant, il y a aussi maintenant, en termes d'infrastructure, le schéma directeur là, a fait des collecteurs de caniveaux, il y a 20 ans, 30 ans, qui sont pour la plupart maintenant endommagés, n'est-ce pas, qui n'écoulent plus, qui n'ont plus les eaux fortes d'entretien et de curage, ou bien qui sont sous-dimensionnés. Quand vous remarquez maintenant, au cours de ce temps, on peut avoir 100 mm. Donc, il faut de nouveaux ouvrages qui soient adaptés à recevoir des pluies de plus de 100 mm.
Alors, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, à la ville de Niamey, vous avez déjà commencé à enregistrer des sinistrés?
Oui, je vous ai dit qu'au niveau régional, oui. Il y a un comité régional qui est le seul habilité à donner ces statistiques que vous venez de donner. Et ça, là, c'est géré au niveau de la DGPC.
Justement, on a voulu avoir la Direction générale de la protection civile qui n'a pas envoyé de représentants. Vous, Monsieur Tini, on sait qu'aussi des routes, des infrastructures telles que des ponts ont cédé. Il y a de cela une semaine, la ville de Niamey était carrément enclavée avec les différentes voies d'entrée de Dosso, RN1, RN31 qui étaient coupées. Selon vous, est-ce qu'on devrait adapter vraiment certaines infrastructures à la question de la pluviométrie?
Très bien. Et avant de répondre à ça, je tiens à expliquer un phénomène que nous avons oublié.
Oui.
Je reviens toujours à l'urbanisation. Vous savez, et le phénomène de l'urbanisation, c'est un grand phagocytaire de l'espace naturel. Donc, une fois que l'espace naturel, les champs sont lotis, sont transformés en habitation, ça veut dire que la plupart de ces surfaces-là sont minéralisées. C'est-à-dire ne peuvent plus faire infiltrer l'eau. Avant, c'était trop de champs. Tout ici, même ces quartiers, c'était des champs. Quand il pleut, le sol même absorbe la grande majorité. C'est le trop-plein qui charrie à travers les petits coris et qui va. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, la ville s'est agrandie. On a occupé tous ces champs-là. Donc, toutes les
c'est
eaux
tout normal,
qui,
oui.
auparavant, s'infiltrer, n'arrivent plus à trouver où s'infiltrer. Ils ne peuvent que drainer sur les voies aménagées ou non aménagées. Donc, en coulant, ça charrie avec, en tout cas, le sable, les ordures, tout, qui peuvent aller boucher certains ouvrages tels que les ponts que vous venez de dire, ou certains caniveaux. Et quand c'est bouché, ils cherchent un passage. L'eau a cette force-là que nul ne peut l'arrêter facilement. Donc, quel que soit le moment ou bien le nombre d'années, là où elle pense avoir le passage, elle va forcer. Donc, ce qui fait que quand ça arrive au niveau de ces ponts-là, le plus souvent, ce n'est pas le pont que l'eau casse, mais c'est les parties où il y a la terre pleine que ça ronge le sable
et
jusqu'à
tout naturellement,
couper,
le pont cède, oui.
Voilà, ça coupe d'abord les parties qui sont la plateforme, le tablier, et non le pont en tant que tel. C'est les côtés, ça cherche, où il y a le sable, il ronge le sable, après la latérite, et ça coupe le bitume et elle trouve son passage pour continuer. Et c'est dû au phénomène de l'urbanisation, je dis bien, et à l'ensablement aussi de tous ces coryes et de ces, et même du fleuve, oui, et des profondeurs du lit qui allaient jusqu'à 7 mètres auparavant, qui aujourd'hui ne prend même pas 2 mètres en profondeur. Donc ça veut dire que tous les 5 mètres là sont répandus un peu partout pour aller inonder les riverains. Et c'est ça en quelque sorte le réel problème. C'est parce que l'urbanisation à tout prix, et malheureusement il n'y avait pas eu les moyens, comme il l'a dit, l'assainissement, tout comme les études, toute étude surtout en matière d'urbanisme, et demande beaucoup de sous pour faire un bon schéma. Un bon schéma de directeur, c'est les milliards.
Mais si toutes ces zones sont occupées ou bien continuent d'être occupées, à qui la faute, où se situe la responsabilité?
Bon, et ce n'est pas, on ne peut pas jeter la faute sur qui que ce soit.
Oui.
Parce que quand la population s'accroît, chacun veut avoir un toit. Et pour la recherche du toit, et chacun va essayer n'importe où vous trouvez, où vous arrivez à acheter, essayer de construire votre toit. Ce n'est pas la faute à... Le seul problème, c'est le manque d'aménagement avant l'occupation. Et ça, c'est des sous. Ça demande vraiment des gros moyens. Et depuis un certain temps, ce n'est une cachette pour personne que nos pays sont tout le temps en indice de développement classé dernier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. S'il y a l'argent, on allait investir pour aménager tout ceci.
On espère que vraiment le nouveau schéma qui est en cours d'étude, autant pour moi, prendra compte vraiment de tous ces aspects.
Oui, ça c'est bien fait. J'ai vu, j'ai même participé un peu au choix. C'est un schéma qui prend en compte et Niamey et ses alentours. Il n'y a pas où Niamey n'est pas rentré. On ne peut même pas physiquement venir sur le terrain pour dire voilà les limites de Niamey. Donc ce qui fait que le schéma prochain qu'ils sont en train de faire, on a dit schéma directeur d'aménagement d'urbanisme pour la ville de Niamey et ses alentours. Ça doit prendre les communes voisines là, parce que aujourd'hui les limites de Niamey c'est dans les communes voisines.
D'accord.
Et forcément il faut prendre compte.
Alors Monsieur Issifi, ces inondations qui touchent la population au niveau de la ville de Niamey, comment vous abordez même cette question?
D'accord. Merci une fois encore. Il faut retenir que l'État et ses démembrements vraiment ne sont pas restés les bras croisés. C'est un phénomène qui a été vraiment pris avec beaucoup d'attention. Et la preuve, on a créé tout un ministère dédié à la gestion de ces
catastrophes.
C'est important, il faut que ce ministère, qui est l'organe de coordination, arrive à donner beaucoup de partenaires humanitaires, sans lesquels on aurait pu accéder à des catastrophes. Il faut reconnaître qu'au niveau régional, on a créé tout un comité régional de prévention et gestion des risques sous la coordination de la DGPC. Il faut reconnaître qu'au niveau de la commune de Niamey, on a créé des comités de vigilance dans tous les quartiers, dans toutes les communes, et gérés par les ADLS de ces communes-là. Et chaque fois, on fait des efforts de sensibilisation pour expliquer aux occupants de ces zones inondables, déjà déclarées inondables, de bien vouloir évacuer. C'est un peu dur. C'est pour dire une chose. Il ne s'agit pas de faire des schémas. On peut faire des schémas, on peut avoir des financements pour avoir des infrastructures. Le problème de fond de nos États, c'est qu'il faut véritablement une bonne éducation urbaine. Quand vous regardez, c'est là où ça pêche.
Ouais.
Les communes font des efforts, font des grands ouvrages à coût de milliards. Vous revenez un an après, c'est devenu comment?
C'est l'entretien.
Donc, si on veut vivre en ville, il faut aussi apprendre en ville. Je m'excuse si ça peut gêner quelqu'un. Mais ça, c'est une condition vraiment nécessaire. Sine qua non. Donc, une autre chose, c'est qu'il faudrait que les différents projets et programmes prennent en charge les questions d'éducation urbaine pour Niamey. Niamey, une étude a été faite dans les années 2008 qui montre que dans les pays de la CEDEAO, la ville de Niamey particulièrement souffre d'un retard d'urbanité. J'ai dit que Niamey, c'est un doublement tous les 15 ans. Et à Niamey, il a été constaté que le nombre de naissances est égal au nombre de nouveaux arrivants. Donc c'est une ville d'exode. La plupart des gens quittent leur village, leur hameau, sans escale dans leur capitale régionale, ils débarquent à Niamey, avec des habitudes de villageois. Est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher.
Pour ceux donc qui sont dans ces zones inondables, vous l'avez dit qu'il a été demandé à ces personnes de quitter. Et chaque année, on demande à ces personnes de quitter. On leur a attribué des sites, mais malheureusement, ils sont retournés. Mais il n'existe pas de dispositif vraiment pour faire face à cela.
Alors, merci, vous êtes ouverte comme vous faites là. Nous, on avait constaté, moi j'ai vraiment l'honneur d'être à la mairie depuis 25 ans, que je gère le domaine. Et j'ai constaté qu'en 2010, il y a eu inondation. 2020, ça s'est répété. Et le problème demeure.
Effectivement.
Mais j'ai constaté qu'avec la refondation actuelle, ce qui était auparavant impossible, là, il est maintenant possible. On arrivait à chasser les mendiants de la ville de Niamey. Alors que si l'État s'implique, il peut aussi libérer ces zones-là. Donc, Dubara Nagame Haonkura.
Et donc, pour ceux-mêmes qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons donc des inondations dans nos villes, précisément ici à Niamey. Et quelle réponse apporter à cette récurrence des inondations? Et pour en discuter, nous sommes avec M. Issifi Diabaté. Il est le conseiller technique principal de l'administrateur délégué de la ville de Niamey en matière d'aménagement urbain. Et nous sommes aussi avec Tini Younoussa, architecte urbaniste. La protection civile invitée n'a pas envoyé deux représentants. Monsieur Tini, je reviens vers vous. Ceux qui sont dans les zones inondables refusent carrément de laisser les lieux. Mais les zones inondables même, comment on peut les utiliser pour en tirer bénéfice?
Très bien. Et avant de dire comment tirer bénéfice des zones inondables, je vais un peu prolonger sur ce que mon ami Diabaté a dit. Et l'inondation, d'abord en ville, il y a la grande inondation que nous connaissons qui fait tomber des maisons pour ceux qui ont construit dans les bras morts du fleuve ou dans les zones inondables. Il y a aussi la petite inondation dans les quartiers, le plus souvent lié au comportement
de la population.
C'est à ça que je vais en venir d'abord, avant de
commencer
l'autre. Parce que le comportement de citadins doit nous interpeller à éviter certaines pratiques. Je ne peux pas comprendre que dans une rue de 10 mètres, des voisins face à face, chacun essaie de curer ses fosses ou ses puisards et faire des puits des trous perdus de curage pour verser ces eaux vannes-là et les laisser avec
à l'air libre
et que ça sert de lieu de déportoir jusqu'à ce que ça constitue des talus. Donc les talus-là, le voisin d'en face a fait, vous avez fait, ça devient deux talus qui vont se joindre et qui automatiquement vont bloquer les eaux qui coulaient naturellement. Donc ça va créer là-bas constamment et une stagnation des eaux.
On constate aussi certains qui utilisent, qui font du remblage sur
le terrain avec de la lumière. J'arrive à cela. C'est le premier qui me dérangeait. Au moins, l'autre, il a acheté de la latérite pour mettre devant sa porte parce que l'eau s'arrêtait un peu et il n'a pas bien étalé, ça a constitué une digue en quelque sorte. Mais l'autre, non seulement c'est des eaux vannes auxquelles on vient verser des ordures, qui, non seulement ça peut polluer la nappe, et ça peut aussi contaminer tout l'environnement.
Il y a le risque sanitaire,
et
oui.
Vous allez voir le plus souvent, dans la plupart des quartiers où l'eau rentre dans les maisons des gens, c'est le genre de pratique-là qui est suivant. Ça, c'est les petites inondations créées par nos comportements nous-mêmes. Et sans écarter ce que vous venez de dire, ceux qui, par les moyens, arrivent juste à constituer une digue devant leur maison, qui peut-être, si la tête là qu'il avait achetée, il pouvait le mettre dans la zone où l'eau se stagnait, comme ça tout le quartier va en profiter. Non, non, il met ça devant sa maison et il crée des eaux stagnantes en amont.
D'accord.
Voilà, je reviens sur les zones inondables dont vous avez dit. Là-bas, c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas gérer de façon sentimentale. Quand on avait interdit, on avait institué le port de ceinture dans les véhicules, mais c'est devenu automatique, parce que vous savez que vous allez payer. Mais donc, c'est la même façon. On vous a attribué des terrains gratuitement. On vous a même aidé, ça j'ai assisté, j'ai vu la première opération de Sénon. On vous a même aidé à les construire. et vous revenez encore vous installer dans les zones inondables. Là, c'est vraiment aux autorités de prendre les responsabilités. Il n'y a pas de sentiment.
Et comme le temps est contre nous, M. Tini, aujourd'hui, quelle est la meilleure réponse face à ces inondations?
La meilleure réponse, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation, une fois que la sensibilisation va partout où ça doit s'entendre et se comprendre, je pense qu'on aura fait le chemin à moitié.
D'accord.
Après la sensibilisation, maintenant, à travers les maigres moyens dont disposent les villes, essayez, ne serait-ce que pour la petite inondation dont je parle, à la veille de chaque saison hivernale, passer avec leur niveleuse. Ils ont commencé à le faire, mais le faire pour faire vraiment les talus que les gens ont constitués eux-mêmes, les dégager pour faire sortir avec, ne serait-ce que des tranchées, pour qu'il n'y ait plus de eau, au moins dans les quartiers non inondables. Là.
D'accord, merci.
Et, oui, je dis à petite inondation. Merci. Maintenant, pour les grandes inondations, ça, essayez de les dégager une fois de bon et asseoir ce qu'il faut.
D'accord. Voilà. Merci bien, M. Tini. Alors, M. Tini a évoqué un point, les petites inondations dans les quartiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? Est-ce que ce n'est pas interdit qu'une personne se lève aujourd'hui pour peut-être faire une petite digue devant sa maison?
Déjà, le domaine public là, est encadré. Et les gens savent qu'en dehors, n'est-ce pas, de leur devanture là. Même pour faire un aménagement en pavé, il faut une rétention de la mairie. Après, ils vont faire des... Et quand vous donnez le code pénal, vous allez voir des dispositions qui interdisent ça, qui les criminalisent. Maintenant, pour revenir à la gestion des inondations, permettez-moi de vous rappeler que depuis l'arrivée du nouvel AD, le colonel Boubacar Soumana Garanti, on a mis en place une journée hebdomadaire de salubrité chaque fin de mois. Donc, au cours de chaque édition, nous choisissons un quartier d'une commune de Niamey, où tout le monde intervient pour procéder au ramassage et au allègement des ordures, mais aussi identifier, avec les services techniques, des points névralgiques où il faut faire des tranchées pour drainer les eaux, comme l'a dit Tini. En plus de ces tranchées, les services techniques et les communes sont instruits de procéder au curage régulier des caniveaux pour le drainage des eaux. Mais plus que ça, on a mis en place un plan d'urgence. Un plan d'urgence, c'est pour la ville de Niamey, en attendant tous ces schémas-là. Et ce plan d'urgence-là, il est composé de 5 grandes rubriques. Il y a d'abord la gestion des eaux, il y a la gestion des ordures, il y a la voirie, il y a l'effet optique et l'espace vert. Donc, on a au moins 5 grandes rubriques sur lesquelles nous intervenons de façon spontanée pour changer l'image de la ville de Niamey.
D'accord.
Ça, c'est en ce qui concerne les quartiers, pour endiguer le phénomène d'inondation dans les quartiers récurrents. Pour la grande inondation du fleuve, là, on l'a déjà expliqué, c'est le fleuve Niger qui déborde. Et ça, c'est imprévisible parce que le fleuve est alimenté par des affluents. En tant que professionnel de l'aménagement urbain, vraiment, je vais demander vraiment que les uns et les autres, à travers les grands programmes, qu'il y ait à l'intérieur un programme d'éducation urbaine. Moi, je suis convaincu. Le tout n'est pas de faire des infrastructures, mais de les préserver, de les protéger.
D'accord.
Et pour ça, il faudrait que les citoyens qui en sont bénéficiaires se l'approprient.
Merci
pour
bien.
Pour finir,
oui, rapidement.
L'éducation urbaine, là, ça ne peut passer que par la sensibilisation.
Effectivement, il faut aussi sensibiliser.
Et puis, deuxième chose, pour la gestion des inondations à Niamey, les chefs de quartier rencontrent périodiquement l'AD pour faire des propositions et travailler ensemble. Donc, on a créé toute une synergie dans ce sens au niveau des acteurs institutionnel et non institutionnel.
C'est ici que prend fin cette émission. Les inondations sont donc une réalité au Niger. Des efforts sont en train d'être faits au niveau de la ville de Niamey pour y faire face. Et selon donc l'intervention de nos invités, l'urbanisation de nos villes joue un rôle dans l'aggravation des risques liés aux inondations. Aux autorités de durcir le ton pour empêcher l'occupation des zones inondables afin de limiter les dégâts. Il faut donc aussi une bonne étude de planification de nos villes pour l'avenir. Nos remerciements à M. Issifi Diabaté, conseiller technique principal de l'administrateur délégué de la ville de Niamey en matière d'aménagement urbain. Merci d'être venu. M. Tini Younoussa, architecte urbaniste, merci à vous d'être venu.
Merci,
la direction générale de la protection civile invitée n'a pas envoyé de représentant. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération, Abdoulaye Yakouba à la technique. À très bientôt sur le studio Kalangou pour une nouvelle thématique. Au revoir.